Alors on est au Fog, un magnifique club de Lille, pour la deuxième rencontre steampunk avec la crème de la crème aujourd'hui, puisqu'il y a Raphaël Colson, donc
bravo et sa famille,
le professeur Étienne et Tim Barillier qu'on ne présente plus avec son steampunk, et aujourd'hui avec Arthur Morgan pour le guide steampunk paru chez ActuSF. Alors vous avez payé coupé, hein, première question, l'origine, d'où vient le mot steampunk, qui sont à l'origine du terme? On y va, messieurs.
C'est à vous, les garçons.
L'origine du terme steampunk, c'est...
C'est un mot qui ne veut rien dire, c'est une blague.
Comment tu appelles ça?
C'est une... tenir une heure.
C'est exactement ça. C'est dans les années 80, on a trois jeunes écrivains américains, des Californiens. Donc James Blaylock, Tim Powers et K.W. Jeter, qui sont des potes, qui écrivent leurs premiers livres, qui sont des fictions rétro-futuristes victoriennes, assez déjantées. Et à l'époque, ce qui marchait extraordinairement fort, c'était la science-fiction, c'était le cyberpunk. Et dans le courrier du magazine américain Locus, il y avait tout un débat sur qu'est-ce que c'est que ces livres que produisent ces bonhommes-là. Et vraiment sous la forme de la blagounette, K.W. Jeter a envoyé une lettre disant « Ben voilà, ce qu'on écrit, vous avez qu'à appeler ça steampunk. » Et c'est tout.
Ouais.
C'est-à-dire, il n'y a pas de projet littéraire derrière, il n'y a pas d'une volonté de créer quelque chose qui n'avait jamais été fait avant.
Ouais.
Ils ont fait leur truc. Par hasard, ils ont balancé un mot, et par hasard, c'est resté, ça a rejoint d'autres morceaux, et ça a fait florès.
Ouais. Alors, ça c'est l'origine. Alors, quelques premiers titres qui vont faire qu'on repère ce mouvement. Parler de Powers, par exemple.
C'est Les Voix d'Anubis. Qui fait vraiment sensation sur...
Ouais.
Quand il le sort.
Homonculus de Blaylock.
Homonculus de Blaylock.
Oui.
Qui est beaucoup plus déjanté, beaucoup moins sérieux.
Et même plus steampunk, en fait, le Homonculus de Blaylock. Par exemple... pose déjà des éléments qui vont donner des icônes comme le dirigeable qui est dans le plus qui est pas dans les Voies d'Anubis.
Mais un fan de steampunk contemporain, un petit jeune là qui va lire Les Voies d'Anubis pensant trouver la Bible, le maître étalon qui pose ce qu'est le steampunk est forcément déçu. Il
n'y
a pas de dirigeable, il n'y a pas de machine gigantesque, il n'y a pas d'automate.
Certains arguent que ce n'est pas d'ailleurs, il n'y a pas du steampunk.
Oui.
Certains fans.
C'est que là, on est aux origines du genre, et que à mesure que les textes étaient écrits, ils posaient des jalons qui allaient devenir ensuite simplement des codes.
Oui. Alors, par exemple, qui c'est qui va installer des images références comme. Les automates, c'est plutôt Jeter.
C'est Jeter, mais lui, il l'a fait volontairement.
Oui.
Quand il a fait les machines infernales.
Oui.
À la différence de ses camarades, il était allé en Angleterre.
Oui.
Et en Angleterre, il avait fait les musées et il avait vu donc toute cette technologie du 19e qu'il avait voulu restituer dans ses textes.
Oui.
Parce que sinon, quand ils écrivaient, c'était une connaissance totalement livresque du genre.
Oui, il y a l'humour dans les premiers grands titres, Les Voies d'Anubis, Homonculus ou le roman de Jeter.
On l'a un peu perdu d'ailleurs avec la nouvelle vague. Mais, oui, de toute façon, c'était clairement une blague à l'origine. Enfin, il n'y avait pas, comme disait Étienne, de posture littéraire particulière.
Ouais.
Il n'y avait pas vocation à créer un mouvement derrière ça. C'était aussi pour porter un peu en dérision tout le cyberpunk qui pouvait être un peu sérieux.
Et pourtant, de la dérision à la réflexion, il va y avoir un chemin, il y a un chemin qui est fait. Raphaël, pour la partie théorique du steampunk, ce que c'est devenu, qu'on veuille ou pas, comment on pourrait définir ce temps steampunk? C'est quoi un passé différent de comment
c'est
on peut
le passé du 19e.
Le passé du 19e.
Le steampunk, de mon point de vue, ça intègre quelque chose qui est plus large, qui est le rétrofuturisme.
Oui.
Et donc dans rétrofutur, c'est ce qui est mis en avant, c'est l'idée qu'au début des années 80, les Américains créent leur dernière esthétique, qui est le cyberpunk.
Oui.
Et en même temps, créer le rétrofuturisme. C'est-à-dire que la première nouvelle de Gibson, voilà, c'est un peu l'ancêtre de la fiction rétrofuturiste. Alors, Gibson, il l'écrit pour s'opposer à cet héritage, mais n'empêche que la nouvelle, c'est l'archétype de ce que va devenir le courant rétrofuturiste. Et d'ailleurs, cette histoire de steampunk renvoie au cyberpunk. C'est comme si le cyberpunk s'était substitué au terme science-fiction. À partir de là, on a créé un ensemble de sous-courants. Donc, il y a la belle steampunk, il y a le dieselpunk, il y a l'atompunk. Donc, moi, dans la classification, steampunk, c'est le 19e siècle. C'est-à-dire la capacité qu'on a de réinventer le 19e siècle. L'évolution industrielle, toutes les figures iconiques, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction. Et après, il y a la première moitié du 20e siècle, qui est donc d'un côté le dieselpunk sur l'entre-deux-guerres et l'atompunk sur les années 50. Ces termes renvoient à un cadre historique relativement défini. Et puis, je pense que l'histoire du steampunk, c'est intéressant, c'est que c'est une création américaine. Ils s'en amusent juste un petit peu. Et après, il y a un passage de flambeau dans les années 90 sur les auteurs européens.
Ah oui,
Et ce qui me paraît assez logique, dans la mesure du 19e siècle, c'est la révolution industrielle en Europe. Donc, je pense que le steampunk, c'est aussi bien enraciné en Europe, en France, en Angleterre, c'est lié à la propre histoire. Ce que je dis toujours, c'est que le 19e siècle, le steampunk, c'est une manière pour les Européens d'aller puiser dans l'héritage de leur âge d'or.
Oui.
Au moment où l'Europe était au firmament de sa puissance. Et le dieselpunk ou l'atompunk, c'est l'âge d'or américain. Donc c'est plus des créations américaines, d'ailleurs. Voilà, c'est ce jeu comme ça de renvoi à des différents âges d'or, différents sphères culturelles. Mais pour moi, en tout cas, le steampunk, ça appartient, c'est un courant, quelque chose qui est large, qu'on appelle vraiment le rétrofuturisme.
Le rétrofuturisme, ok, oui. Et pourquoi, tu l'as dit très bien, et c'est vrai en général, cette période, pourquoi s'en tenir au 19e siècle, en plus, surtout anglais?
Non, pas forcément.
Enfin, c'est quand même ce qui prédomine dans la fiction.
C'est ce qui prédomine. Donc,
De moins en moins.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a donc l'archétype là, du 19e anglais, mais qui commence à s'épuiser, parce que
oui.
Il commence à être dur de faire de nouvelles histoires. Et ça commence à glisser. On a la tendance. Moi, le steampunk, je l'arrête nettement. Enfin, on ne peut plus faire du steampunk après la Première Guerre mondiale.
Oui.
Voilà.
C'est
automatique. Mais on peut le fusionner, et ça se voit dans d'autres pays. Où il y a des textes de steampunk d'Afrique du Nord qui commencent à apparaître, du steampunk polonais, du steampunk allemand. Donc à chaque fois, le principe que tu disais, c'est cette mécanique de création qui fusionne avec une culture nationale. Dans un sens, et j'emploie le terme sans connotation péjorative, totalement réactionnaire. C'est non plus prendre une culture qui a longtemps été une culture américaine qui nous arrivait, ce qui fait qu'on négligeait notre propre culture populaire, mais c'est réinvestir des figures, des personnages, des thèmes, tout un imaginaire qui existait et qui demande qu'à être finalement que réactivé.
Mais pardon, est-ce que ça peut pas être forcé, parce que je sais bien ce que je veux dire peut provoquer, mais on imagine un steampunk anglais, de fait il y a une révolution industrielle, français, les entre guillemets grandes nations du 19e siècle, mais est-ce que ça va peut-être un peu plaquer si on fait un steampunk, je sais pas moi, non. Sicilien.
Parce que regarde,
il renvoie à quoi ce steampunk?
Est-ce qu'il faut, il n'y a pas un substrat nécessaire?
Donc, où tu as donc, une culture et une tout un imaginaire local.
Mais ça colle, est-ce que ça colle avec des parties entières de l'Europe? Tu ne peux pas faire un steampunk. Déjà, je suis très content, mais je suis surpris qu'il puisse exister un steampunk d'Afrique du Nord, mais proprement d'Afrique du Nord.
Un steampunk sud-américain.
Comment?
Voilà, alors je ne parle pas espagnol, donc j'ai pas pu lire les textes, oui. Mais voilà, ça existe. Mais
est-ce que c'est pas européen, l'imaginaire ou le fond
Ah oui, le fond, d'accord, mais la mécanique qui fait que je vais appliquer un regard rétrofuturiste, référentiel.
C'est du rétrofuturisme. C'est du steampunk.
C'est du steampunk, enfin, mais pour moi, les deux peuvent être synonymes. Hein.
Ouais, voilà. Donc, moi, je fais vraiment une distinction. C'est le rétrofuturisme, c'est cet ensemble assez lâche qui permet de coller des éléments rétro à travers des œuvres qui ne sont pas forcément complètement rétrofuturistes. Et ce qui m'interroge sur cette histoire de steampunk, polonais ou autre, c'est qu'est-ce qu'ils vont chercher? Est-ce que c'est dans un cadre spécifique 19e, qui est puisé dans leur héritage local,
ouais, voilà,
et qui reproduisent l'esthétique steampunk? L'esthétique, elle est spécifique. C'est les rouages, des engrenages, la vapeur. Ça, c'est un élément qui détermine ce qu'est le steampunk. Est-ce que ces personnes-là étrangères s'inscrivent dans cette esthétique steampunk, les machines à vapeur? Dans ce cas-là, effectivement, on s'intègre dans des variations de steam. Si par contre, c'est juste une imagerie rétro et qu'on fait un rappel des éléments qui ne sont pas nécessairement liés à la vapeur, moi, c'est
vrai. Et là, je ne bats pas en touche, mais c'est les deux. Les deux ont lieu en même temps. Là, c'est vraiment des choses qui sont en train d'apparaître. Tu vas avoir aussi bien. Tu peux avoir un écrivain français qui peut faire un steampunk londonien au 19e siècle avec la reine Victoria, tout ce que tu voudras. Mais il peut faire aussi un steampunk qui, lui, se passera à Limoges en 1905 pendant les révoltes ouvrières.
Ah, ça me semble plus compliqué d'un auteur français qui va faire du steampunk, on va dire, asiatique, parce qu'il ne maîtrise pas forcément les codes. Les codes du 19e asiatique. Qui, d'ailleurs, n'a peut-être pas vécu la révolution industrielle comme...
Mais pour rebondir à ce que disait Xavier, un robot géant qui arrive à Paris de nos jours, tu trouveras, tout le monde va dire que ça fait toc. Si on visualise la scène, un robot géant qui attaque la Tour Eiffel aujourd'hui, non. Bon, s'il attaquait.
Parfaitement.
Oui, mais c'est transposé.
Voilà.
Mais tandis que tu mets la même scène où ça c'est un robot géant steampunk et c'est la Tour Eiffel en train d'être construite, et tout d'un coup l'image fonctionne et ne semble plus ridicule.
Oui.
Et on va pas te dire ça fait copie, ça fait fausse. C'est-à-dire que par le steampunk, des images que l'on ne s'autorisait pas à faire, eh bien on peut recommencer à les faire.
Oui, c'est vrai. Oui.
Parce que justement, ça met à distance tout un imaginaire qui parasite d'une forme. Quand dans La Lune seule le sait, le fait que les extraterrestres débarquent à Paris, si les extraterrestres débarquent à Paris, ben oui, sous Napoléon III, donc
oui,
on peut y croire.
Oui, 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 oui.
Qu'est-ce qu'ils iraient faire de nos jours, les extraterrestres, à Paris?
Visiter le Louvre, pardi. Aller à Montmartre.
Et alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est vrai que c'est très, très riche déjà, mais on dirait que, par exemple, le steampunk par rapport à l'anticipation, on parle pas, mais même l'Uchronie, peut se permettre d'intégrer là carrément des personnages de fiction. Je pense par exemple à Sherlock Holmes. Comment ça se fait que ça s'y prête, ce genre?
Le steampunk, c'est trois grandes caractéristiques. C'est donc le fait que ce soit rétrofuturiste.
Ouais.
Donc, une translation dans le futur, dans le passé. Le fait que ce soit référentiel et le fait que ce soit conscient d'être référentiel. Donc, dans mon histoire steampunk, je peux avoir le capitaine Nemo, mais je peux avoir Jules Verne qui va apparaître en même temps. Donc, c'est par rapport à toute la fiction Sherlock Holmesienne qui existe, le principe va un petit peu plus loin. Parce que c'est, dans ce cas-là, ce serait Sherlock Holmes qui ferait l'enquête en même temps que Conan Doyle. Bah, ce qui a été fait dans l'Instinct de l'Écarisseur, qui est un roman steampunk.
Ou par Mark Frost dans...
Dans la liste des sept.
Oui, oui, c'est très bien. Et alors, des personnages, je pense qu'on... Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a... Il y a 30 ans, c'était un sous-genre, et typiquement anglo-saxon. Début des années 2000, il y a les Français, on y reviendra, hein, parce qu'il y a une vraie patte française. Mais maintenant, par rapport à la science-fiction, je me rappelle qu'on parlait de sous-genre, mépris. On dirait que le steampunk et toute littérature imaginaire qui fait appel au passé est en train de prendre de... Le pas sur l'anticipation. Non, oui. Il y a. Comment ça s'explique ça?
Il y a sûrement une panne de la création, comme le dit Raphaël dans son bouquin de l'anticipation. Si on vit dans une époque rétro, les modes des années 70, voilà, on est dans.
Moi, je dirais que c'est le problème de. On a peur de demain.
Oui.
Le monde, les perspectives de demain, sont pas.
Il est pas, c'est pas glamour.
Oui.
Ce que j'appelle le monofuture libéral, c'est-à-dire cette façon qu'a la science-fiction, depuis l'apparition du cyberpunk, en fait, de nous proposer systématiquement toujours le même futur, qui n'est pas un futur très marrant, mais on s'habitue. C'est-à-dire qu'on regarde des films de Blade Runner à Total Recall. Il y a un moment, on se dit, bah oui, ça sera. Voilà, le monde d'aujourd'hui, il est en train de se transformer. Et on se dit, ah mais oui, les cyberpunk avaient raison. Mais il y a quand même une fonction de la science-fiction qu'on a oubliée, c'est qu'au 19e siècle, au moment d'un bouillonnement politique qui a mené au libéralisme, à l'anarchisme, au communisme, au socialisme, la science-fiction, on s'en servait, les auteurs s'en servaient. La société. Politiquement, imaginez ce que serait le monde de demain, d'un point de vue idéal. La science-fiction, elle arrivait au 19e, elle mettait en scène cette vision de demain. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec un kaléidoscope de futur possible, au pluriel. Aujourd'hui, on est dans un futur au singulier. Et après, il y a l'autre dimension, c'est que je pense que dans la culture occidentale, on a peur du monde de l'informatique. Il y a l'apparition de l'IA. L'intelligence artificielle, ce côté désincarné qui est en train de s'offrir à nous, on est assez réticent. Je ferai juste la connexion avec les films de robots comme Galactica ou Terminator. En Occident, on est dans un rapport de dominant-dominé. Le robot, pour nous, c'est une machine qui doit être au service de l'homme. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la culture japonaise. Du fait de l'animisme, la culture japonaise aborde le robot comme étant un être qui mérite tout à fait sa place par rapport à ces petits. Et du coup, d'ailleurs, la science-fiction japonaise n'apprend pas de la même manière le futur. Donc il y a cet aspect, le futur, il n'est pas glamour. En Occident, je pense qu'on est dans un sentiment de déclin par rapport à un monde qui bouge complètement, où on n'est plus dans une phase polaire, rapport Occident-reste du monde, on est dans un monde multipolaire, avec l'apparition de grandes puissances comme la Chine, l'Inde, le Brésil et autres. Et du coup, tous ces éléments-là, il y a aussi le passage de l'androïde, mine de rien, la science-fiction américaine, pendant un siècle, elle a construit une mythologie autour de l'an 2000, la voiture volante, tous ces objets, ça devait être beau, ça devait être glamour, ça n'est pas tant que ça. On a effectivement eu des outils technologiques développés, mais on n'a pas ce passé. Voilà, le passé, imaginer un futur glorieux et... magnifique, ça l'est pas tant. Donc tous ces éléments font que je pense que la culture occidentale se replie vers son âge d'or, vers son passé. C'est aussi ce que je défends sur l'idée que la science-fiction américaine, elle est née dans les années 1920-1930. Elle est née avec une esthétique, le space opéra. Arrivée aux années 80, elle a produit ses dernières esthétiques qui sont justement le cyberpunk, voire demain, et le rétrofuturisme, qui est voir derrière. Ce que j'appelle le rapport flash-forward et flashback. Et les flash-forwards, c'est la capacité de la science-fiction à nous montrer ce que pourrait être demain. Et aujourd'hui, on a une science-fiction qui fonctionne en flashback, c'est-à-dire qui renvoie à ce qu'elle a été. Et les Américains, ou même les Européens, le fait de renvoyer leur histoire, qui est le 19e, ou l'âge d'or américain des années 30-40, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'on renvoie à ce qu'on était à un moment, voilà, on était l'âge d'or, on était l'Amérique, elle donnait le là. C'est-à-dire qu'elle disait, voilà ce que sera le monde de demain. C'était les années 30, les années 40, à travers des revues, des ouvrages. Si on fait du rétrofuturisme de type dieselpunk, c'est pour retrouver cet héritage. Et c'est une manière de se replier par rapport à un monde de demain qui nous... Et je pourrais dire pourquoi dans ce cas-là, la fantasy, pourquoi l'héroïque fantasy, pourquoi tous ces types de récits, c'est constamment un retour vers en arrière. On se protège de quelque chose, d'un environnement qui ne fait pas si... Il y a une crainte, il y a un sentiment, pas de peur, mais le futur ne nous fait pas rêver. Et du coup, pas d'anticipation. Et ça pourra arriver sur un autre débat qui est, qu'est-ce que la science-fiction aujourd'hui ? La science-fiction aujourd'hui, on la vit tous les jours. Donc elle s'est tellement diluée qu'écrire un livre sur le monde d'aujourd'hui, c'est faire de la science-fiction. Enfin, on s'éloigne un petit peu. Mais
parce que justement, par rapport au steampunk, on voit que on a surtout insisté évidemment sur la partie littéraire théorique, mais depuis son commencement, il a investi quand même quantité de champs différents dans le présent, justement, qui sont par exemple l'esthétique vestimentaire, la musique, le design en général, les meubles, le jeu, etc. Alors, comment ça, est-ce qu'on pouvait, première question, imaginer une telle forfait, parce que pour un sous-genre, il se débrouille bien. Hein, et deuxièmement, qu'est-ce qui fait qu'on veut pousser jusqu'à avoir les objets chez soi, tel ordinateur relooké, machine à écrire, Remington, magnifique.
Oui, mais c'est l'effet grossissement d'Internet.
Il y a des beaux objets.
Oui, ça c'est sûr.
C'est une belle chose.
Pour moi, c'est réenchanter le quotidien.
Réenchanter le quotidien à partir du passé.
Puis, enfin, voilà, enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est rajouter une capacité d'émerveillement, de sidération, d'étonnement. Je me souviens des dessins de Fosse quand j'étais jeune. Ça parle aux vieux simplement, excusez-moi. qui était un illustrateur de science-fiction qui faisait des dessins et qui faisait absolument rêver. Mais aujourd'hui, ce genre de dessins ne font plus rêver. Par contre, des dessins ou des illustrations steampunk réinvestissent et rapportent.
Mais comment ça se fait, par exemple, que pour avoir connu un petit peu l'univers des Holmésiens, donc des amateurs de Sherlock Holmes, qui ont, ça c'est les Anglais, beaucoup tendance à s'habiller, ils n'aiment pas qu'on dise se déguiser, mais s'habiller en historien. Comment ça se fait que le côté spontané n'a pas marché? Pourquoi il n'y a pas eu ce mouvement-là, et qu'il y a avec le steampunk
Déjà, le steampunk a vraiment explosé dans les années 2000 avec le web.
Oui.
Où là, les communautés ont pu vraiment se fédérer autour de.
Ça, on pourrait en parler un petit peu parce que.
Parce que voilà, tu postais une photo sur un forum et cette photo allait être vue par X milliers de personnes.
Oui.
Ce qui fait qu'il y avait un retentissement qui devenait considérable.
Oui. Après, il y a ce côté. Ça marche ça. Il y a ce côté vraiment do it yourself.
Oui.
Le punk du steampunk.
Oui.
Qui est aussi hérité en partie du punk des années 70. Le fait de, par exemple, faire ses costumes soi-même, customiser.
C'est cosplay aussi, ça.
Oui, en partie le cosplay. Et c'est une façon aussi de reprendre la main sur la technologie. Oui. Le steampunk, c'est des machines qu'on peut bidouiller. C'est pas, encore une fois, le mot bidouillage, c'est pas du tout négatif. C'est qu'on peut réparer soi-même. Aujourd'hui, un smartphone, plus personne n'est en mesure de réparer son smartphone.
Oui.
Et du coup, ça revient sur cette idée de qu'on sent qu'on perd la main dans
c'est ça,
un monde où on a de moins en moins d'emprise. Parce que l'histoire du rétrofuturisme, c'est aussi replacer l'humain au cœur de la fiction. Même dans une fiction rétrofuturiste, qu'elle soit steampunk ou rétro ou ce qu'on veut, par exemple, le robot, c'est une simple machine qui est au service de l'homme. Et donc on replace l'individu au cœur de la fiction et au cœur du monde. Parce qu'on est dans un monde où tout est en train de nous échapper. Donc on a beau effectivement être connecté, transmettre des milliers d'informations, ça nous échappe. Et ce côté artisan, c'est, je pense, une manière de se réapproprier des choses qui nous échappent de plus en plus.
Et puis il y a eu des communautés de, par exemple, je pense à tout ce qui est les joueurs, hein, les jeux, les amateurs, oui, de reconstitution historique,
oui,
hein, qui ont pris vraiment le steampunk comme une récréation.
Sortir du carcan de la reconstitution.
Et se mettre à faire des choses avec leur savoir-faire qu'ils avaient développé, parce qu'ils faisaient déjà leur propre costume de soldats du XVIIIe siècle. Mais donc le savoir-faire de travail du cuir, ouais, de travail du fer, de la couture, a été réinvesti dans cela.
Encore une fois, c'est pas non plus propre que au mouvement steampunk. Aux États-Unis, ça arrive vraiment en France. Il y a le mouvement des makers qui réfléchissent à la micro-industrie, c'est-à-dire avec grâce aux imprimantes 3D, on va pouvoir produire nous-mêmes nos propres outils. Ouais. Et ça, c'est aussi une façon de se réapproprier le monde. Donc c'est pas le steampunk qui est une des émergences.
Cela, ce serait aussi et parce que le steampunk est très déterminé en images. Donc chez les makers, ce serait une époque particulière ou
non, pas du tout. C'est une façon de réagir de se réapproprier le monde. Les cours de...
C'est le principe des décroissants.
Les cours de toy hacking aux États-Unis par exemple, où tous les papas ne veulent pas aller racheter un jouet dès qu'il est cassé, mais ils vont se réunir pour apprendre les bases de l'électronique pour réparer les jouets. Voilà, tout ça marche. Il y a aussi une lutte un peu contre l'obsolescence programmée. Donc voilà, le steampunk, avec cette dominante de la machine à vapeur... Et on est aussi, on retourne un peu au départ de l'industrie et on réfléchit à ce qui a pu nous échapper à un moment donné.
Et est-ce qu'on vit pas non plus un présent qui est incapable d'imaginer des nouvelles esthétiques?
C'est une nouvelle esthétique.
C'est une nouvelle esthétique, mais qui va puiser dans le passé pour reconstruire quelque chose. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé dans un monde où on ne produit plus rien de neuf? Finalement, on tourne en rond et donc on revient en arrière, on va puiser dans un passé, dans un héritage, et on refabrique des choses.
Oui, mais
en partie, parce que tous les mouvements artistiques, plein de mouvements artistiques.
Dans ce cas-là, c'est un moment de
vie. Je ne dis pas à cet artiste qui disait, de toute façon, le passé.
Non, je ne te parle pas de lui. Les pré-raphaélites au 19e, faisaient référence aussi. Reprenez des vieilles figures pour...
Oui, mais quand tu vis dans un système qui, par exemple, est dans une logique de présentisme, tout le temps dans un présent qui, en fait, dévore le futur d'un côté puisqu'il ne réfléchit plus sur le futur, et essaie de se passer du passé, de s'en débarrasser. Alors, pour moi, c'est la politique des remakes et des reboots. Hein. Refaire un film qui a été créé il y a 10 ou 20 ans, c'est pour plaire à la nouvelle génération, c'est pour satisfaire des codes cinématographiques, par exemple, plus spécifiques qu'à le cinéma post-vidéotique. Et c'est une manière d'effacer un héritage, une histoire, un passé. Et est-ce que les mouvements steampunk, c'est pas une manière quand même de se réapproprier tout un héritage qui est quand même sur la sellette?
Je pense qu'il y a un acte de ce que je disais, réactionnaire, mais au sens noble du terme. Donc c'est de réactiver des choses qui
on est en train de perdre.
Que l'on peut perdre on quitte un peu le steampunk. Ça peut être la démarche un peu de Serge Lehmann avec ce qu'il a pu vouloir initier avec la brigade chimérique et tout l'univers qui en découle. De rappeler par A plus B que ces personnages existent, ces auteurs ont existé, cette culture est disponible, et n'attend qu'à être saisi, embrassé et
réactif. Ça va même plus loin parce que lui, il ne veut pas simplement qu'on se réapproprie dans le présent un passé oublié, c'est que lui milite, réintroduit paradoxalement l'anticipation, puisqu'il lui, il pense construire un sorte de, d'imaginaire collectif européen. Il l'expliquerait mille fois mieux que moi, mais ce que dit en substance Serge Lehmann, c'est que, par exemple, la Première Guerre mondiale est une guerre civile, une guerre européenne, et pas une guerre multinationale, et que donc il faut créer notre héritage commun qui existe, il faut le révéler en tant qu'héritage commun. Donc en fait, Serge Lehmann travaille pour le futur. C'est intéressant, parce qu'il arrive à réintroduire le futur. Mais il y a autre chose qui m'intéresse par rapport au steampunk, parce que c'est une question qui n'est jamais posée, c'est que j'ai l'impression que le steampunk est complètement anti-écologique. Alors, non pas parce qu'il y a la fumée, mais parce que il puise dans une culture qui est celle du 19e siècle. Enfin, la nature, ça n'existe pas avant le 19e siècle. C'est-à-dire qu'avant, la plage, personne qui arrive à passer l'après-midi à la plage, la montagne, c'est dangereux, on n'y va pas, etc. Il n'y a pas de respect de la nature, parce que la nature, elle est hostile. Et le respect de la nature apparaît au moment de la révolution industrielle, où on se crée sa propre culpabilité, En créant les outils pour dévaster la nature. Et moi, ce qui m'épate, c'est que dans le steampunk, il n'est jamais question de nature. Et quand il est question, c'est celle de Challenger, il y a des dinosaures, elle est hostile, etc. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est quand même une mais je ne le juge pas, hein, parce que moi, ça me va très bien. C'est quand même une esthétique, un mouvement, etc. Très urbain, voilà. Oui. Oui. Comment ça se fait qu'on ne peut pas imaginer pourquoi il n'y a pas les grands explorateurs steampunk, par exemple, pourquoi il n'y a pas les mines du roi Salomon steampunk?
Il y a Burton, c'est le Burton steampunk de Mark Oder, par exemple.
Ouais.
C'est un des grands explorateurs de...
Ouais, mais c'est très urbain, Tim Barillet l'a dit.
Mais c'est oui, ça reste à écrire et je pense que tu devrais t'y mettre.
Il y avait eu le Darwinien, le très beau Darwinien.
Oui, Darwinien.
Qui était magnifique.
Mais par contre, le steampunk, enfin, surtout aux États-Unis, et, enfin, tu l'évoquais tout à l'heure, c'était est beaucoup plus récupéré par une conscience politique de gauche américaine, tendance écologiste.
Ah oui,
Avec toute une pensée justement chez certains critiques de par rapport à la décroissance
et à l'obsolescence programmée. Effectivement, le fait de pouvoir encore une fois reprendre la main sur
oui, qui est tenté de respect par rapport à notre propre consommation. Que je pense que la question écolo, l'écologie, c'est-à-dire le devenir de l'écosystème dans lequel nous vivons, mais je dirais que ça a même été entièrement évacué de tout l'imaginaire futuriste. Et c'est plus du tout le sujet. Soit on l'évite parce que ça voudrait dire remettre en cause le système dans lequel on est. Moi, j'ai fait ce parallèle par rapport à un ouvrage sur les zombies. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 2000, la fiction post-apocalyptique, donc sur les thèmes écolo, normalement, passe uniquement aujourd'hui par l'image, le motif de la pandémie.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les épidémies, les invasions d'infectés ou de zombies, on ne parle finalement que de la civilisation et de l'humanité. Et que c'est une manière d'évacuer en fait la question écolo, c'est-à-dire qu'on est en train de dévaster l'écosystème. Et donc je trouve assez intéressant, effectivement, pourquoi le steampunk s'intéresserait à l'écologie, vu qu'on est dans une sphère occidentale, vu qu'il y a un rapport à la nature qui a toujours été celle de la domination. C'est-à-dire nous exploitons l'écologie, nous exploitons l'écosystème pour l'intérêt de notre société. Et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis entre les Appalaches, les montagnes de charbon détruites directement, ou le gaz de schiste, on est dans une logique où on ira exploiter la Terre jusqu'au dernier hectolitre de ce qu'on veut, de toute énergie. Et je trouve donc frappant qu'à travers cet imaginaire futuriste, au moment où il n'y a plus l'anticipation, on ne cherche plus à réfléchir sur anticiper ce que sera demain, et on a évacué la question écologique.
Oui.
Parce qu'on n'a pas envie d'en parler. Et qu'à travers une fiction rétrofuturiste ou une fiction de zombie, étonnamment, on revient alors sur nous, il y a un côté égocentriste, c'est qu'est-ce que l'humanité, vers quoi elle tend, comment elle peut fonctionner. Mais par contre, la question écolo, de l'univers du monde, tous les grands récits des années 70 de la spéculative fiction, qui traitaient sur ce rapport société, surconsommation, destruction de biotopes, c'est quelque chose qui a été quasiment complètement évacué aujourd'hui de l'imaginaire futuriste.
Alors que dans les textes qu'on peut identifier comme fondateurs du steampunk, pour faire simple, Verne et Wells, la nature est extrêmement là. Bon, Verne, les voyages, déjà, elle est omniprésente. Wells, je pense par exemple à La guerre des mondes, ou L'herbe rouge, notamment. Il pouvait s'en passer dans le texte, dans le récit, il pouvait économiser l'herbe rouge, mais elle détruit l'environnement terrien. Alors que dans les textes fondateurs du steampunk, il y a un vrai souci de l'écosystème, il n'y a plus là maintenant.
Et est-ce que, la question, est-ce que finalement le steampunk, c'est aussi un reflet de ce que nous sommes? Nous sommes des êtres urbains. On est aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus urbaine, globalement. Et est-ce finalement le steampunk n'est pas le reflet aussi de cette urbanité? Faire des récits qui se passent dans des villes avec une histoire d'architecture, de mécanisme, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui, en majorité, nous vivons dans des villes. Donc est-ce que l'imaginaire ne reproduit pas cette réalité?
En fait, ce ne serait pas.
Et du coup,
loin d'être. Enfin,
pas tant réactionnaire que ça, en fait. Parce que.
Bah oui, en fait.
On est urbain, tous les enjeux sociétaux du 19e siècle, donc, début de la pollution, le travail des enfants dans les usines, tout ça, c'est des choses qu'on vit, nous, plus en Europe, mais c'est des choses qui sont dans les pays émergents aujourd'hui. Donc, le steampunk qui reprend cette imagerie du 19e, mais qui va quand même parler des problèmes, enfin, qui est quand même dans un monde qui nous est proche. C'est aussi pour ça qu'on arrive à s'identifier au récit steampunk.
Donc en fait, il y aurait beaucoup de chemin effectué depuis la plaisanterie des fondateurs, c'était pour rigoler, jusqu'à maintenant un sous-genre qui prendrait petit à petit la place de ce qu'a été la science-fiction, en fait. Est-ce que...
Le problème, c'est le problème des libraires actuels. Où est-ce
qu'ils
sont?
Toujours la faute des libraires.
Où est-ce qu'ils rangent un livre steampunk? Quand ils reçoivent une nouveauté steampunk, où est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets en science-fiction? Est-ce que je le mets en fantasy? Est-ce que je le mets en young adult? Donc, il n'y a pas de rayon steampunk actuellement en France. Et on peut se demander... À partir du moment où est-ce que le label...
Il n'y a pas non plus de rayon steampunk, parce que le mot steampunk, pour le grand public, ça ne veut rien dire.
Oui, ça ne veut rien dire. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que, quand même, par rapport à 84 à peu près, date où paraît chez nous les voies d'Anubis, il y a quand même eu un énorme progrès dans... De visibilité, de reconnaissance du steampunk.
Surtout en bande dessinée.
En film bon, mauvais.
Parce que maintenant, il y a aussi une communauté qui est fédérée. Et maintenant, il y a un public pour. Je sais pas, en France, la communauté de vaporistes déclarée, c'est 4000 personnes à peu près.
Combien?
À peu près entre 4 et 5000 personnes.
C'est pas mal du tout.
Et donc, aujourd'hui, il y a des gens qui achètent ces ouvrages ou ces créations, tout objet culturel, mais pour le grand public, le steampunk, ça parle à personne. Le mot steampunk en lui-même parle à personne. Quand on a présenté le livre au Futurial, il y avait un auteur qui était assis à côté de nous, à côté d'Étienne, il savait pas trop ce que c'était le steampunk. Ah, il a ouvert, il a lu l'info, et là, il a compris tout de suite. Mmh. Ah oui, les mystères de l'Ouest. Ah oui, en fait, on a tous côtoyé le steampunk, puisque Jules Verne, ça fait partie de l'ADN français. Quand on va en vacances à Nantes, mais qu'on voit.
Les... C'est pas du rétrofuturisme.
Mais non, mais enfin, c'est une esthétique. Un peu. Le...
C'est un héritage.
Quand on va en vacances à Nantes et qu'on voit le... les machines de Lille, par exemple, voilà. Ils veulent pas trop être estampillés steampunk, ce que je comprends, mais voilà, ça participe à toute cette esthétique. Et le grand public connaît le steampunk sans mettre cette étiquette dessus encore. Mmh. Donc, c'est la grande peur d'ailleurs de ceux, des gens qui ont fondé la communauté, ceux qui sont vaporistes depuis. Voilà, c'est voilà, on est à la limite que le steampunk devienne grand public, devienne mainstream, et que va devenir notre identité là-dedans. Mmh.
Il suffit de regarder maintenant, d'ailleurs c'est frappant. Quand j'avais commencé à travailler sur le steampunk, le référencement Google, avec quelques requêtes bien ciblées, on faisait le tour de la question. Et maintenant, on tape steampunk dans Google, mais c'est fini, il n'est plus possible de tout voir. Même chose sur Amazon. Au début, sur Amazon, il y avait deux livres,
dont le tien.
tandis que maintenant, si on regarde surtout sur l'Amazon américain, on parle de dizaines de pages, et avec une. Il y a le mouvement de démultiplication par toute l'auto-édition directement en numérique de fiction steampunk.
Est-ce que c'est pas mieux de. Je sais pas, mais d'infuser comme ça dans le public. Sans être identifié, mais que ça marche et puis ça vend de manière très concrète, plutôt que, comme la science-fiction, devenir une expression péjorative. Ah, c'est de la science-fiction, mais vous n'y pensez pas, c'est de la science-fiction. Parce que là, de fait, en 20 ans, il y a un vrai intérêt, alors que, on l'a dit, moi je suis d'accord, il y a une perte d'intérêt pour la science-fiction, au moins anticipative. Hein,
Mais il y a énormément de projets steampunk qui sont montés. Actuellement, quand on regarde les films hollywoodiens, les séries télé, on voit que l'esthétique steampunk diffuse, hein, comme le sachet de thé,
oui, voilà,
et
oui.
que cela contamine. Donc il y a beaucoup de lunettes qui apparaissent sur les fronts. Ils ont tous maintenant des chapeaux haute forme. Donc il y a cet effet de contamination qui a lieu. Bon, il n'y a pas encore l'œuvre... qui serait, elle, totalement estampillée steampunk, qui serait là pour faire la reconnaissance pour le grand public ou l'identification immédiate du genre, l'éducation du grand public.
Est-ce que c'est important, ça ?
Ah non, mais on y tend. Il y a plusieurs longs-métrages steampunk qui sont en préparation. Alors, si ça rentre en production, ça peut lancer des choses.
Mais est-ce que c'est important qu'il ne... Parce que dès qu'il y a une reconnaissance, ça fige.
Ah, mais je pense que quand il va y avoir une reconnaissance.
Peut-être qu'il craigne l'évaporer, justement.
Il va y avoir une commercialisation massive. Et là, on va tomber dans énormément de clichés. Mais d'un autre côté, est-ce que le fait qu'on identifie clairement les clichés ne serait pas salvateur pour rebondir et essayer de trouver autre chose?
Le cliché devient aussi le chapeau de forme, les lunettes, ouais, c'est bien un référentiel aussi commun.
Ça devient des icônes, des liens. Mais je pense que l'afrofuturisme, y compris tous les sous-genres steampunk, pour l'instant, il y a quand même une remarque à faire, c'est que l'œuvre purement steampunk, un film par exemple ou autre, ça ne marche pas. Par contre, les éléments d'une esthétique, qu'elle soit steam, dieselpunk ou autre, glissés dans des fictions qui vont traiter d'autres sujets, ça marche. Et notamment, c'est l'importance du jeu vidéo. Donc, le jeu vidéo, qui aujourd'hui est un secteur, je pense, le plus important au niveau de l'industrie culturelle.
Il rapporte plus que nous.
Le jeu, j'en avais parlé justement avec un game designer, c'est que l'avantage du rétrofuturisme, c'est qu'ils reprennent des objets qui existent et ils créent en fait des univers exotiques, mais où les objets sont reconnaissables. Et pour le joueur, du coup, on vise dans un univers qui est différent mais qui nous est familier.
Il faut et, des chocs.
Voilà. Et la grande force, je pense que c'est, voilà, c'est cette diffusion de cette esthétique rétro et par petites touches. Un film comme Sky Captain, le film des Alpes par excellence, c'est un échec. Parce que les gens n'ont pas envie de plonger directement dans quelque chose qui soit vraiment rétro.
Vous savez que le film n'est pas très...
Enfin, le moi, j'adore le film.
Le visuel, oui, mais le... Enfin,
le scénario, c'est un scénario pulp. C'est un scénario pulp.
J'ai lu la jolie en
histoire. Ah bah moi, j'adore. Mais ça, les œuvres purement steampunk, alors, en dehors des romans, on va parler de films, séries télé ou autres. Il n'y a pratiquement pas
Steamboat. Il y a des membres qu'un de Doxovage hein, aux États-Unis. Il est réécrit, c'est un démarre. Mais là aussi, c'est revisité, puisque l'un des derniers titres, c'est avec King Kong.
Il y a Azzarello, le scénariste, qui a fait Versus Batman, Doc Savage et Spirit.
Bien sûr,
oui. Mais là, on est dans la logique de l'âge baroque.
C'est, là, il y a le Spirit et le Rocketeer.
Voilà. C'est ce travail métatextuel.
Oui.
C'est de reprendre un héritage, de refaire travailler des personnages. Puis ça, c'est très américain aussi. Ouais. De faire revivre des vieilles icônes. Flash Gordon, il est toujours vivant. Hein. Il y a eu une série, il n'y a pas si longtemps que ça. Cette capacité qu'a la culture américaine de revitaliser systématiquement les vieilles icônes et les vieilles figures.
Mais alors, par exemple, nous, sauf erreur, on n'a pas de grand roman steampunk français, j'entends par là. Peut-être qu'il y a une seule de C, mais...
Mais par hasard. Ça,
hein,
par hasard.
Oui.
Parce que quand il l'écrit, il ne connaît pas le steampunk.
Oui. Ou alors celui de Colin et Gabory qui se passe en France. Mais est-ce qu'il y a eu un roman français steampunk qui puise dans l'imaginaire français? Où il y aurait les Brigades du Tigre, ou j'en sais rien.
Les Brigades Chimères.
Ben, Pevel, hein. Dans les enchantements d'Ambremer.
Oh, c'est un flop.
Ça a été très
joli livre, mais.
Donc, où les Brigades du Tigre font une apparition.
Ouais.
Ben là, ouais. Enfin, le roman iconique français, c'est steampunk, même si c'est. Si, voilà, c'est la Lune seule le sait, pour moi.
Ouais. Mmh.
Mais en France, le steampunk est surtout vital. Actif en bande dessinée. En bande dessinée franco-belge.
Oui.
Où on pense à des séries qui sont maintenant à leur 10e volume, hein, donc qui tournent, qui ont leur public.
Alors quoi, par exemple?
Je pense à Empire, hein.
Ouais.
Outville House. Outville House. Les Arcanes de Minuit. Mm-hmm. Plutôt dans le dieselpunk, on pourrait penser à Sentinelle.
Oui.
Qui a
trois volumes, hein.
C'est le dernier. Donc vraiment en franco-belge, l'offre française, je pense à Thanatos, qui est une relecture de Fantomas à la sauce rétro-futuriste. Avec Thanatos qui est en train de créer la Première Guerre mondiale.
On pourrait surtout citer les cités obscures.
Ou les systèmes.
Ah, oui,
même, je pense, moi, le gros morceau. Ou le Tardy, des Mains des Glaces. Quoi.
Ah, pour moi, reste. Bon, ça, c'est, ouais. Mais bien avant qu'il y ait l'étiquette, en fait.
Bien avant, là, on est dans le proto. Ouais.
Alors,
ouais, ou alors, c'est Adèle Blanc-Sec encore.
Oui.
Ouais, mais c'est, d'ailleurs, preuve que le rétro-futurisme, c'est pas quelque chose de purement américain, c'est que au début des années 80 en Amérique et en France, parce que le démon des glaces est 70 ans,
il peut y prendre d'avant aussi,
c'est quasiment au même moment, c'est à dire qu'il y a, je pense qu'il y a un moment historique où il se passe quelque chose, où cette interrogation sur qu'est-ce que notre héritage, qu'est-ce que notre passé. Alors, moi, c'est toujours cette histoire aussi de Star Wars. Bien,
Star Wars est rétrofuturiste.
C'est une forme de rétrofuturiste. Non, ce qui est intéressant, c'est...
Dit-il le doigt levé.
Attention.
Non, mais...
C'est un structuraliste.
Jusqu'à la fin des années 70, la culture américaine, elle est en train de divorcer avec son héritage. C'est l'époque de la spéculative fiction, c'est l'époque des anticipations extrêmement noires, Soleil vert, Planète des singes, Rollerball, tous ces films-là. Et Star Wars, c'est quand même le retour au modèle classique. Et la grande force de Star Wars, c'est d'aller puiser dans l'héritage des sérieux, du space opera, de l'entre-deux-guerres. Et le côté malin, c'est que cette esthétique, elle n'est pas reproduite à l'identique, elle est modernisée. C'est ce qui a fait le succès de Star Wars. Et on peut le comparer avec le film Flash Gordon de 80, où là, la production a décidé de reproduire à l'identique l'esthétique surannée des Flash Gordon de l'entre-deux-guerres.
L'humour, attention, on néglige trop l'humour du Flash Gordon.
Oui, il y a de l'humour, mais à l'époque, le film ne trouve pas son public. Non. C'est un four. Parce que le public, au-delà de l'aspect humoristique, qu'est-ce que le public veut? C'est quand il va voir Star Wars, il retrouve des modèles classiques, le bien, le mal, le héros, la princesse, voilà, l'empire du mal, l'empire des gentils. On revient sur le schéma classique. Mais ce qui plaît, c'est parce qu'il y a une esthétique qui est revitalisée. Flash Gordon, il joue sur l'humour, mais il reproduit une esthétique purement rétro. Et ça, les gens, ils sont pas
bien. Flash Gordon est bien plus intelligent, parce qu'il n'y a pas de...
Il est devenu film culte, ceci dit. Il est devenu film culte.
Oui.
Mais
même Ted...
Je trouve intéressant, c'est la différence, le choix d'avoir revitalisé ou non une esthétique. Moi, je pense que ça renvoie à tout ce qui se passe sur la question du steampunk, du diesel, tout ce qu'on veut. C'est à quelle dose on fait du rétro. À quel moment est-ce que on utilise un héritage ancien et on va le revitaliser en lui donnant une nouvelle apparence? Est-ce qu'on va chercher des anciens modèles en les reproduisant à l'identique? Est-ce qu'on n'a pas plutôt tendance à glisser les motifs en deux œuvres différentes plutôt que de faire une œuvre réellement rétro-futuriste? Il y a une histoire de dosage. Et je pense que le steampunk, elle se réapproprie un héritage, essaie de fabriquer quelque chose de autre, de différent. Enfin, c'est sur cette histoire, mais voilà. Comment on réadapte, comment on réadapte pas
Vous sentez un développement des esthétiques au-delà du steampunk, en fait, pour tout ce que vous disiez au départ, moi, je trouve que c'est vrai que la force de ces histoires ou de cette forme de littérature, c'est de nous permettre d'être plus confortable dans la réinterrogation d'une société, alors qu'on ne le fait plus en anticipant, parce qu'on n'imagine plus, on serait tellement, on serait tous des cyborgs avec plein de cuisses dans la peau, c'est pas très agréable à penser en termes de développement futur, peut-être de réinterroger un passé, alors d'abord sur une esthétique bonne, parce que c'est là où on est plus confortable. Ça nous rappelle nos grands-parents, les photos qu'on avait chez nous, etc. C'est tellement l'histoire européenne qui se développe. On en a tous pour une part dans nos souvenirs, soit réels, soit reconstitués par le message familial, et que ça nous revient finalement, et que ça permet de réinterroger, de réenchanter pour nous, aussi de réinterroger le monde. Donc on part sur une esthétique fin 19e autour de la vapeur, mais moi, c'est quelque chose. Peut-être qu'il y a les premières un grand avenir quand même, puisque justement qu'on n'arrive plus à penser le futur par anticipation, les gens vont se l'approprier de plus en plus. Alors effectivement, on en parle quand même de plus en plus. Il y a pas seulement les steampunk, il y a ces BD aussi à jour J qui toute la série dont vous avez parlé. Sur l'uchronique est quand même rattaché à des du familier, à l'histoire familière. Et je pense que les gens, pour moi, c'est vraiment c'est quelque chose qui doit se développer, parce que c'est une chose assez appréhendable par la plupart des gens, et c'est une chose qui font pour moi que les gens se réapproprient les choses dans leur imaginaire pour repenser autre chose, et c'est assez anticipant, c'est assez c'est émancipateur en fait. Attirant.
Et d'après vous, il se réapproprie quoi aussi les gens?
Une faculté de repenser un cheminement différent que le cheminement linéaire de la société qu'on nous impose.
Mais
effectivement, qui est compris dans le futur, ce qui est depuis des espérances, effectivement. Ouais. Quand on vous impose non seulement le présent, mais quand on vous impose l'image, l'imaginer même du futur, le fait de, pour moi, c'est
le présent est déjà futur.
Sont des littératures ou des formes esthétiques qui permettent de se réapproprier les choses et de réavancer.
Je suis d'accord. Avec un confort que le steampunk qu'il n'y a pas dans l'Uchronie, par exemple, c'est que il n'y a pas besoin d'être, quelqu'un l'a dit, précis dans l'histoire. C'est-à-dire que l'Uchronie, il faut savoir goûter les différences et tout ça, voilà ce qui s'est passé. Mais ce que le steampunk, bon, enfin, on fait en gros, quoi. C'est l'âge victorien.
Pour qu'il y ait une Uchronie, il faut qu'il y ait le point de déviance.
Voilà, il faut
Il y a un moment donné dans l'histoire, ça change.
Collection Uchronie,
pour le steampunk, on s'en va.
Je ne connaissais pas.
On a inventé la machine qui permet de faire ça.
Voilà, c'est ça. Oui,
c'est intéressant sur la génération future. Je pense que la rétrofiction, ça a vraiment de l'avenir. Est-ce que la génération qui suit la nôtre, enfin moi j'ai 45, donc encore des grands-parents, des arrière-grands-parents, je pense que c'est facile aussi parce que c'est ça, on n'a pas besoin de trop de référence parce que ça fait appel de toute façon à des choses qu'on a plus ou moins dans son mental, dans son champ mental. La génération d'après, je suis déjà moins sûr qu'ils seront aussi sensibles aux...
Je pense qu'il sera plus facile d'aimer le steampunk du fait justement qu'il n'est pas précis que l'Uchronie. L'Uchronie, c'est générationnel. Il sera très difficile de goûter des Uchronies en tant que telles d'ici 20 ans. Ou alors pour le pur plaisir du récit lui-même. Mais là, par exemple, il y a des tas de jeunes amateurs de steampunk qui n'ont même pas besoin d'ailleurs de lire les romans steampunk.
Non, parce qu'ils n'ont pas forcément lu.
Ouais,
mais voilà. C'est aussi la force du steampunk, avec cette esthétique, c'est de venir par plein de biais différents.
Voilà.
Bah oui, comme le chant de Nirvana, comme Azuar.
Il n'y a pas besoin de précision.
Non, Nirvana.
Ou les restaurants où on a écrit ce livre.
Mais aussi, il faut ajouter dans une des caractéristiques du steampunk, parce que. Qui est négligée, mais qui a mon goût importante, c'est l'humour,
oui.
La capacité de dérision et le premier degré. Mais un premier degré qui veut dire qu'il n'y a pas de cynisme. C'est pas vouloir être référentiel en voulant se moquer, prendre un regard de supériorité, un regard critique. Ici, le plaisir de faire un récit d'aventure, par exemple. Mais une vraie aventure.
Mmh. Ouais, c'est l'aspect vraiment pulp.
Sans avoir besoin d'y mettre des références cachées au 36e degré, ou un regard critique, ou un regard cynique.
Donc Alan Moore, le
plaisir de l'aventure.
Oh. Alan Moore.
Alan Moore ne connaissait pas le steampunk quand il a fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
Et qui est pas, pour moi, le livre.
Alors après, il a dit qu'il s'y reconnaissait. Non.
Ouais.
Mais qu'après, bon, vu l'histoire de la Ligue, ça s'en est éloigné très rapidement.
Oui.
C'est un exercice métatextuel.
Oui. Qui est chiant, hein, sur la fin.
Et je préfère mettre Planétaire, par exemple.
Oui, mille fois. Oui.
Parce que la différence, c'est que Warren Ellis joue le côté métatextuel, mais il propose un vrai propos de science-fiction qui est l'utopie. C'est la fin de Planétaire, finit avec une utopie. Alors que Moore, je pense qu'il joue juste sur le côté métatextuel.
Oui,
il s'amuse avec les personnages, mais il n'y a pas de proposition derrière.
Ouais. C'est très bien.
Et c'est peut-être moi le reproche que je fais au rétrofuturisme de manière générale, c'est que la plupart des œuvres ne produisent pas de sens.
On va s'amuser avec
un contexte. Il n'y a pas forcément un propos derrière.
Mais il n'y a pas forcément un propos. Quand on parle de l'anticipation, il y a un propos derrière. On parlait de la question écolo, il y a du sens, il y a un propos. Et quand même, à part des gens comme Warren Ellis.
Dès l'origine, c'était comme ça, les trois pères fondateurs expliquent.
Oui, mais c'était un jeu. Mais le genre, il évolue. Le genre, il s'étoffe. Après, c'est la question aussi de la dimension uchronique. C'est-à-dire que le steampunk, ça joue quand même avec du matériel historique. Et moi, je trouve que ce matériel historique.
Pas forcément. Ça joue sur une idée.
Une idée
un peu vague, victorienne.
Dans ce cas-là, pourquoi ne pas utiliser ce matériel historique de l'âge victorien et de produire des fictions qui creusent un petit peu plus dans, pour moi, dans la dimension chronique. Mmh. Parce que le steampunk, oui, c'est cette capacité de mélanger de la fantaisie avec des machines à vapeur. Mmh. Il y a un côté roman d'aventure. Et pourquoi pas non plus développer une vraie utopie, une vraie uchronie steampunk qui réfléchit sur les événements.
Il y en a qu'une hiverne. Bon, oui, le problème, c'est qu'on n'a que deux volumes
pour l'instant,
et que l'histoire n'a toujours pas commencé. Mais c'est bien, hein. Mais, bon,
c'est... Il y a peut-être...
Une manière, quoi, de réexplorer l'histoire du 19e.
Quoi. Peut-être que c'est trop demandé, peut-être que c'est juste...
Non, mais c'est la machine à différence, c'est ce qu'ils font.
Oui. Superbe roman, mais pas de succès... culte, mais ça peut être un best-seller, hein, loin de là.
Bah, c'est qu'ils essayent aussi un peu de tuer le genre en même temps. Enfin, parce que ils écrivent un roman steampunk qui se termine comme un roman science-fiction.
Oui.
Donc ils essayent de faire la quadrature, oui, la quadrature du cercle.
Mais je trouve qu'ils le font bien d'ailleurs. Mmh.
Mais peut-être que l'essence du steampunk, c'est justement le. Par rapport aux exigences de l'anticipation, l'évasion, le flow, le plaisir,
l'esthétique.
Oui, l'esthétique.
Donc du coup, il y a quand même voilà, l'histoire du sens, le rapport à l'histoire, c'est des choses qui sont complètement évacuées.
C'est pour ça qu'on disait qu'il n'y a pas besoin de connaître ces dates, on dit l'époque victorienne.
Et du coup, on a des images qui nous apparaissent.
Ouais.
Enfin, moi, je suis sur cette position un peu étrange du steampunk qui est... d'aller puiser dans des choses du passé et en même temps je trouve que ça reste un peu superficiel. On utilise des choses mais on n'en prend que le côté fun, esthétique.
Ah non, là je suis pas d'accord.
Enfin, non, mais c'est la question que je pose.
Non, parce que, là ça aurait fait cheat quoi, si ça avait été que ça.
Bah non, parce que est-ce que le mouvement steampunk serait approprié vraiment une histoire du passé ou est-ce qu'elle ne va pas en que quelques éléments qui sont les plus fans. C'est la question que je pose.
Non, dans ce cas-là, je dirais que ça s'empare d'une histoire. Parce que le simple fait de prendre le matériau historique implique immédiatement de la part de l'auteur qu'il prenne position par rapport à ce matériau-là. Et qu'aussi bien ce qu'il va dire que ce qu'il ne va pas dire, la manière dont il va l'aborder fait sens. À cause de l'histoire même qui manipule.
Je sais pas, j'ai pas été convaincu dans mes lectures.
Il y en a encore sous le pied, alors c'est bien.
Sinon, dans Steamboat, il y a quand même une réflexion sur la technologie.
Oui, avec les deux figures paternelles. Oui.
Mais c'est Otomo.
Oui, c'est particulier. C'est quand même une des
œuvres. Pour moi, c'est le meilleur
film.
C'est le meilleur film steampunk.
Oui.
Et effectivement, il y a une vraie réflexion sur la science, sur l'opposition, une manière de voir, sur la guerre. C'est-à-dire que l'exposition universelle dans le film avec toutes les machines de guerre, c'est génial. Et la finalité du film, qui est la transition. Du steampunk au deuxième point avec ces images de la Première Guerre mondiale, pour moi c'est génial. Et là, c'est, voilà, là, c'est porteur de sens. Là, ça nous titille sur des grandes thématiques, sur des idées. Moi, ça m'amène quelque chose. Et des fois, le steampunk.
Mais qu'est-ce que ça t'apporte plus, par exemple, Steamboy que Astro Boy?
Astro Boy, c'est autre chose.
Fondamentalement, moi je trouve que c'est. C'est deux œuvres que j'adore, hein, l'une et l'autre. Moi, je trouve comme des espèces de symétrie, en fait.
Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans Steamboat.
Pardon ?
Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans
Steamboat. Non, bien sûr. Non. Il y a beaucoup de choses qui est dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre, et réciproquement. Mais je trouve qu'il y a une même composition d'éléments qui serait... une jeunesse figurée, un enfant qui sauverait naturel ou artificiel, des adultes qui sont par contre pas matures, dans les deux cas, une société qui a fait un choix scientifique, dans les deux cas, avec ses avantages et ses inconvénients, dans les deux cas. Et moi je trouve que en fait ils sont assez proches.
Parce que c'est des thématiques très japonaises en
D'accord,
SF.
Ok. Ouais.
Et que le rétrofuturisme japonais d'ailleurs. Passage, c'est assez génial parce qu'il n'est pas du tout dans les mêmes préoccupations que ses homologues en Occident. C'est que le Japon, sa culture, c'est une capacité de pouvoir générer de leur propre thématique, donc ce que j'appelle le particulier, et d'aller capter dans tout ce qui est étranger en culture. Et au niveau de la science-fiction, les Japonais ont à peu près capté toutes les esthétiques, toutes les thématiques américaines, européennes, et ils les ont fusionnées avec leurs propres thématiques. Et qu'il y a du coup une sorte d'association universelle particulière, et que le rétro-futurisme japonais, souvent, c'est des récits avec toujours leurs propres thématiques, leurs réflexions sur la guerre, il y a toutes ces thématiques. Et ils s'amusent esthétiquement, purement esthétiquement, à mélanger différentes époques. Du coup, ça crée des œuvres complètement hybrides.
L'important, c'est tenu 18e, par exemple. Souvent, dans les œuvres d'anticipation japonaises, il y a beaucoup d'éléments empruntés au 18e européen. Oui. En vêtements.
Et puis on pourrait évoquer Miyazaki sur le château dans le ciel et surtout le château ambulant. Voilà, le château ambulant, pour moi, c'est une œuvre qui évoque la Première Guerre mondiale, donc qui a du sens. C'est-à-dire qu'à travers une histoire de malédiction d'un groupe de personnages qui ont leurs problèmes, tu as quand même tout un discours de fond sur cette Première Guerre mondiale. Les parades au début du film. Il y a des plans sur les tranchées, les bombardements aériens. Voilà, à travers un film qui a une esthétique rétro, il y a des idées qui passent. Et c'est juste pour pouvoir glisser une anecdote. Quand vous regardez le château ambulant, il y a une scène, un moment où les personnages principaux s'échappent du palais royal, après la rencontre avec la sorcière royale. Ils sont sur leur vaisseau, qui est une pure reproduction d'une machine volante de Robida. Et en arrière-plan, ça dure une seconde, il y a une rue et on voit des manifestants en train de se faire tirer dessus par l'armée. Et pour moi, c'est la grande force de Miyazaki, elle est là, c'est qu'à travers un plan d'une seconde, en arrière-plan d'une autre scène, il y a toute une aspiration sur la guerre, sur le fait qu'on comprend tout de suite que c'est un mouvement pacifiste, une manif pacifiste qui s'oppose à la guerre. Et voilà, et c'est glissé au fond d'un plan. Et en animation, c'est pas du hasard, puisqu'on l'a dessiné, on l'a choisi. Voilà. Moi, dans le rétro-futuriste, c'est ça que j'aime bien, c'est aller chercher ces petites choses. C'est ça que j'aime bien Warren Ellis, sur le ministère de l'espace, Ministry of Space, qui est du rétro-futurisme. Hein. Voilà, le plan final, la société voilà, ségrégationniste. Ouais, j'aime bien ce genre. J'aime bien quand il y a du sens. Quand ça nous interroge sur notre histoire. Des fois, le steampunk, il y a...
Mais le problème, c'est pas voilà, forcément c'est... le propos. C'est que le steampunk, c'est un empan extraordinairement large. On va aller du pur divertissement...
Ouais, tout à fait.
Jusqu'à l'œuvre d'art. Donc, il y a un propos et un sens. Donc, il y a cet empan... Voilà, il faut pouvoir passer de l'un à l'autre. Mais tu vas pas pouvoir... Enfin, on peut pas mettre à côté... certaines œuvres, il y en a une qui va se carboniser à côté de l'autre. Et pourtant, on peut avoir plaisir à voir quelque chose d'aussi vain que. Enfin, je ne vais pas donner de nom, mais.
Non, mais enfin, c'est que je fais mon commissaire politique et. J'insiste
juste. Spectacle.
Non, mais j'insiste juste sur cette notion d'histoire. C'est que là, j'ai lu récemment, il y a eu un rapport qui a été fait où l'histoire géo, c'est une catastrophe au niveau collège, au niveau de l'enseignement.
Mais c'est trop compliqué l'histoire, on va simplifier. 5 d'années.
Et je pense que l'histoire, c'est essentiel. En termes de matière, pour moi, c'est le plus essentiel. Et ne pas connaître son histoire, c'est ne pas comprendre dans le monde dans lequel on vit. Et quand on touche sur l'univers du rétrofuturisme, quelle que soit sa forme, on touche à l'histoire. Et pourquoi alors ne pas aller puiser cette matière-là, la retraiter, y réfléchir. Un scénariste comme Warren Ellis réfléchit, qui fait des œuvres rétro-futuristes, mais il va puiser une matière et il y a une réflexion quand même sur.
Mais à ce niveau-là, le steampunk, c'est un peu comme de la fantasy. Là, dans la fantasy, t'as pas une réflexion.
Il y a beaucoup de
t'as pas forcément une réflexion sur le sur notre passé. C'est un monde un peu. Tu prends comme tel la magie, qui est comme c'est l'équivalent scientifique, en gros. Et là, c'est pareil, dans plein de romans steampunk, il y a un postulat de base, et voilà, il y a un petit goût d'histoire, mais il y a une esthétique du 19e, mais voilà.
J'ai eu récemment le premier volume de Mann, les aventures de Hobbes et
Le Revenant de Whitechapel.
Le roman est sympa, il y a une belle ambiance, mais au bout du compte, pourquoi? Pourquoi
c'est quoi ça? C'est quoi
Le Revenant de Whitechapel. De George Mann, c'est ça?
Oui, de George Mann, où c'est son premier cycle steampunk qui se passe donc à Londres avec des automates, avec des dirigeables. C'est une enquête policière, c'est sympa, on y retrouve tous les éléments. Et moi, je me dis au bout du compte, mais voilà, vers quoi ça nous tend?
Mais là, on est presque dans le récit policier, c'est les enquêtes de Norbury.
Oui, oui,
oui. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ce que je dis. Là, on est vraiment dans le pur récit plaisir.
Ouais,
voilà, on peut prendre du plaisir.
On peut prendre du plaisir.
Mais il me manque un petit peu. Tu as le droit de prendre du plaisir. Voilà.
Non, non, mais c'est pour ça que je faisais mon commissaire politique.
Non, mais il a été éduqué chez les jésuites.
Non, mais c'est l'importance de l'histoire.
Mais ça,
on en discutait avec Morgane sur... voilà, c'est la question de l'uchronie aussi. C'est une manière de comment appréhender...
Alors, ce qui est curieux, c'est aussi que le steampunk, mais aussi de manière générale, tout ce qui est rétrofuturisme, à mon avis, ça influe sur la façon que l'on a de raconter l'histoire en littérature générale. Je prends un exemple qui est le... Donc on est en pleine littérature générale autobiographique. C'est un bouquin hilarant, plaisant, de Bill Bryson, qui s'appelle « Ma vie dans... » La vie d'un enfant ou ma vie d'enfant dans l'Amérique des années 50, et où il raconte ses souvenirs. Donc vraiment, on est dans l'autobiographie, donc il est gamin, à l'époque des jours heureux, etc. Et quand on le lit, quand on a un peu le métier, on se dit, il l'écrit pas comme on aurait écrit une autobiographie sur les années 50 il y a 20-30 ans. Lui-même a lu de la SF, et quand il raconte ses vrais souvenirs, il les raconte en tant que gars qui a lu la SF. Par exemple, il dit je vais dans la cuisine où trônait un énorme réfrigérateur Philco. Personne, il y a 20 ans, en racontant sa vie dans les années 50, aurait insisté sur ce type de détail. Alors, il raconte ses vrais souvenirs, on n'est pas dans la science-fiction, mais le gars est lecteur aussi. Et c'est marrant, ça. Bien sûr, ouais, sur ces bonnes paroles, on a carrément explosé. On va se faire tuer au bout de chemin. C'est bien.
Ah ouais. Bon. Il y a peut-être l'éducation.
Ouais, des questions. Hein,
oui. Allez-y, profitez-en.
Il y a peut-être des lettres dessus.
Pas sûr.
Bon, le fait que le steampunk, c'est une forme de science-fiction qui revient en arrière sur une période assez limitée où on prend éventuellement des aspects. Fantastique. Par rapport à un récit d'anticipation où les règles de l'avenir, toutes les technologies qui vont être développées, les aspects de la science, les puissances mondiales, etc., qui sont encore inconnues et les règles sont ignorées. Donc, c'est effectivement très difficile d'imaginer, d'anticiper quelles sont les différentes règles, parce qu'on peut faire. Varier beaucoup de choses pour arriver à une chose de fou. Justement. Parce que quelque part, c'est pas un peu facile, le steampunk, parce qu'on est dans des périodes historiques limitées, où on sait déjà tout ce qui s'est déjà passé. On finit toujours à la Première Guerre mondiale. Je veux dire, est-ce qu'il y a des récits de steampunk qui vont éviter cette Première Guerre mondiale? Non. Est-ce que du coup, dans le steampunk, il n'y a pas... une absence de degré de liberté, en fait, dans l'imagination.
Lisez la trilogie là, de Scott Westerfeld, Léviathan, qui est donc un carton mondial en littérature, donc littérature jeunesse, mais c'est où il fait donc une réécriture steampunk de la Première Guerre mondiale. Il va partir de l'attentat de Sarajevo.
Il n'est pas d'accord.
Bon. Il y a des éléments.
Mais il y a un sens. Une reconstitution de l'histoire.
Il y a des formes de rétrofuture. Donc, lisez-le et vous voyez comment voilà, il va jouer avec cela.
Et même la trilogie de la Lune, d'ailleurs, modifie complètement l'histoire.
Et la trilogie de la Lune, avec chaque roman qui va se dérouler loin dans le temps, et il va suivre. À la fois le vieillissement de son univers de fiction, mais aussi incorporer les personnages de fiction des époques concernées.
Sinon, j'avais une question.
Si on est quand même dans un cadre d'assurance, on a des codes, et même la fiction, elle va finir un moment par tourner quand même en rond, c'est-à-dire elle a ses codes, et on reproduit à peu près le même comme un peu les récits polars aujourd'hui, on reproduit un petit peu toujours les mêmes choses. Mais juste par rapport à la Première Guerre mondiale, je pense que le steampunk.
Son truc, la Première Guerre aussi.
La Première Guerre mondiale.
Non, t'aurais pas dû parler de la Première Guerre. Je vais appeler la librairie.
C'est juste pour glisser deux idées. La Première Guerre mondiale, c'est une césure fondamentale de l'histoire de l'imaginaire futuriste. C'est-à-dire que l'Europe, jusqu'à 14, elle est dans une logique d'utopie. Donc elle crée des fictions qui sont utopiques. La guerre 14, si tu veux, tout d'un coup, au 19e, c'est la science égale progrès. La science va transformer le monde et créer quelque chose de plus beau, de plus organisé. C'est les règles de G. Wells, c'est le socialisme scientifique. Et tout d'un coup, 14, c'est la science, elle peut aussi devenir une monstruosité. Et c'est la phrase de Valéry, civilisation, nous savons que nous sommes mortels. Et si tu veux, l'imaginaire européen au niveau de la science-fiction, il y a eu un divorce avec la guerre 14, et c'est à ce moment-là où l'imaginaire futuriste est passé dans la sphère américaine. Donc pour nous, Européens, la guerre 14, c'est la mort de l'utopie, c'est le basculement vers la dystopie, c'est l'apparition des systèmes totalitaires, et du coup l'apparition des grandes dystopies littéraires que sont 1984, Nous autres, ce genre de choses.
Tout simplement, parce qu'il y a un besoin d'imaginaire, un imaginaire non narratif, le surréalisme, dadaïsme.
Voilà, et de fuir, parce qu'il faut savoir que de 1860
au lieu de la science-fiction.
À 1914, il y a eu tout un courant littéraire en Angleterre, aux États-Unis, qui sont les guerres futuristes. Wells en a écrit, où on imaginait la guerre de demain. Et ça peut être la guerre des guerres, c'est-à-dire que la guerre technologique mettrait fin à toutes les guerres. Et donc, Français, Anglais se sont amusés à concevoir cette guerre futuriste. H.G. Wells a écrit un roman où il décrit les premiers combats aériens. Il y a une nouvelle où le char d'assaut apparaît. Donc pendant une quarantaine d'années, ils sont amusés à se faire peur, à se dire, la guerre future. La guerre future, elle est devenue réalité. Parce que la guerre 14, c'est vraiment une guerre futuriste. Donc ils ont appliqué le char d'assaut, l'avion de guerre, toutes ces choses-là.
Je trouve pas que ce soit une guerre futuriste.
Pour moi,
c'est la guerre totale. C'est-à-dire que t'as des chevaux blindés,
c'est la guerre futuriste, c'est la guerre barbare.
C'est la guerre.
C'est la transition.
Au contraire, je trouve qu'elle transiterait, elle synthétise tout. Tu te bats, t'as des cuirasses, t'as des avions.
Il y a la structure, mais ce que j'appelle guerre futuriste, c'est la structure aviation, char d'assaut, artillerie, infanterie, qui est un système militaire qui est encore aujourd'hui qui fonctionne. Donc la guerre 14, elle met en place une structure, une interaction entre la technologie et l'humain, et qui est toujours en cours aujourd'hui. Il n'y a pas tant évolué le rapport de la machine. Mais cette guerre 14, c'est l'Européen, il passe de l'utopie à la dystopie. Et du coup, dans la fiction, steampunk, ce qui est assez marrant, c'est qu'on ne traite jamais cette guerre. On s'arrête sur la Première Guerre mondiale, on la fait disparaître, et c'est juste cette histoire d'âge d'or européen. C'est que l'âge d'or européen, en fait, il est mort avec la guerre 14. Sentinelle, si on fait du steampunk, et si on reconstruit l'histoire,
Sentinelle, la bande dessinée,
on se débarrasse de cette Première Guerre mondiale, et du coup, d'un coup, l'âge d'or européen, il peut perdurer.
Là, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que l'auteur, il sait que la Première Guerre mondiale a eu de peine.
Lequel?
L'auteur de la fiction. Le créateur. L'auteur.
Oui, mais soit il sait l'histoire. Soit il l'a fait disparaître.
Mais la faire disparaître ne veut pas dire qu'elle n'existe plus.
Moi, pour l'instant, dites-moi si vous connaissez réellement une vraie chronique qui se passe pendant la Première Guerre mondiale.
Qui se passe pendant.
Pendant.
Avec Éric Henrier.
Il y a des tonnes de.
Oui,
téléphonement.
Il y a des tonnes de chroniques sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la guerre. Il y a une totale impasse sur la Première Guerre mondiale. Et même dans les rares uchronies comme Les Îles du Soleil, qui est très beau, mais il Ils évoquent juste, ça se passe après.
Oui, tout à fait.
C'est juste évoqué.
Mais c'est aussi pour ça que le steampunk marche bien, c'est que on est, c'est un cadre où, où l'Europe était enfin, voilà, un peu positiviste scientifique, et c'est l'époque aussi où l'Europe était... était maître du monde.
Il a l'idée des héros.
Oui, la ligue des héros. Jeune qui débute.
Et quand rien ne dit dans l'oreille, à quoi tu penses, connard.
Ce qui est marrant, c'est que la Première Guerre mondiale, si elle revient dans l'imaginaire, à travers la fiction rétrofuturiste, à travers les jeux, à travers quelques romans.
Puis les sentinelles de.
Voilà, les sentinelles, et où en fait, il y a le retour de la machine. Que de la fin de la guerre jusqu'aux années 2000, la fiction qui traite l'imaginaire ou la fiction qui traite de la Première Guerre mondiale, elle est réaliste. Elle a, en fait, ça a été retiré de l'imaginaire futuriste, c'est pratiquement rien sur la Première Guerre mondiale.
À partir de l'année prochaine.
Et le rétrofuturisme.
Avec le centenaire, 2000, on va avoir de la Première Guerre mondiale. D'ASF qui est en
ah oui, oui. Ouais.
Avec le centenaire, l'année prochaine, on va en avoir. Mais...
Du forcément, il y aura 14.
Du style de 14, avec des machines, avec des mechas, avec ouais. Des. Voilà,
Sucker Punch. Tu voulais du sens, moi je te donne du sens.
C'est justement, quand je parlais d'esthétique pour l'esthétique, la séquence de Sucker Punch dans les tranchées, c'est de l'esthétique pour de l'esthétique.
Mmh. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Mais...
On en arrive même à ce que les soldats allemands qui sont zombies avec du matériel à vapeur dessus. Quand même que le héros arrive à expliquer, mais ce sont des zombies avec une machine.
Ah, moi je regardais que les filles, donc.
Bon. Cela dit, dans. Il y a une esthétique.
Ça part dans tous les sens.
Dans l'armée des douze singes, quand ils se retrouvent dans les tranchées, dans Vélum, quand le héros pour fuir les anges se va dans les tranchées, c'est la pure esthétique gratuite. Moi je veux échapper aux anges de Dieu. Je vais à Chalon-sur-Marne en février 1973. Je ne me retrouve pas là. Qu'est-ce qu'on veut ? Voilà, oui, il y a une esthétique, c'est évident. De l'effet.
De l'effet. Je pense que le steam, ouais. C'est de l'esthétique. De l'esthétique.
D'accord.
Ça parle pas de la ça parle pas de la Première Guerre mondiale. Non, c'est bon, on peut y aller, on peut faire une réponse. Profites-en pendant qu'il écoute.
C'est une façon
de remplacer le niveau sur le SF. C'est vrai que maintenant, il y a aussi beaucoup de
romans
comme
le Dragon. Oui.
Bah,
Anno Dracula qui est réédité avec une couverture, ce qui fait vraiment totalement steampunk.
Et c'est vrai que parce que là on vient dans les
classiques qu'on a connus, Dracula. Ouais, alors enfin. Oui, mais après on en revient à la définition de ce que peut être le steampunk, qui est pas vraiment un genre avec un contour assez flou.
Non. Mais ces suites deviennent vraiment rétrofuturistes. Après là, ces suites, ça devient vraiment rétrofuturiste. Bah, dans la réinvention d'une histoire alternative. Ah oui, mais oui.
C'est pas court. Oui,
mais c'est voilà, c'est le genre de livre qui est classé dans le steampunk sans en mettre vraiment un modèle.
Dans Ambremer, c'est pas non plus, il n'y a pas la machine. Dans les voies d'Anubis, c'est aussi léger.
Au fantastique,
oui.
Il y a quand même beaucoup de gens qui viennent aussi au steampunk par ce côté à lire.
Pas considéré comme un genre de la
science.
À part les omniscients, et que ça marche avec le steampunk.
Il y a un bouquin qui fait ça, qui s'appelle Steampunk Holmes.
Oui.
Il reprend l'esthétique avec un. Ils ont couplé avec un iPad, enfin une application sur iPad.